C'est ta radio.
C'est votre radio.
C'est ta radio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
Pop.
La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir.
Il va y avoir du sport en ce lundi 13 avril et oui, reprise après la petite coupure pour permettre eh bien, à Philippe de chasser les œufs de Pâques. Philippe, comment tu vas ?
Ça va bien, merci.
À mes côtés également, Aymeric.
Et salut à tous.
Ah, Aymeric qui a le micro vert, étant donné que nous avons un petit souci avec le micro bleu aujourd'hui.
C'est mieux.
Je pense qu'il y a un chocolat de Pâques qui est tombé sur ton micro bleu.
Ouais, Aymeric. Ouais, je pense que c'est ça.
Et qui l'a cassé.
Je disais donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Bienvenue, et puis à la technique, Mika.
Salut à tous, à toutes.
Ouais. Également au téléphone, notre ami Ludo, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir tout le monde, je vous entends très bien.
Et même si on va le sevrer de rugby aujourd'hui, Ludo est bien au rendez-vous. Et on salue Laurent également, qui est eh bien du côté du studio Arn, toujours aux côtés eh bien de toute la team CETA Radio Toulouse pour le développement, bien évidemment, pour que vous puissiez toujours nous écouter dans de meilleures conditions. Le football, on va commencer avec, après on parlera de tennis avec l'hommage à Patrice Dominguez, mais aussi un gros plan sur le début de saison en terre battue. C'est du côté de Monte Carlo et on parlera également eh bien, de la Fed Cup, parce que ça y est, les filles sont en demi, alors ça sera peut-être l'occasion d'aller jusqu'en finale, on verra. On parlera également de cyclisme juste avant Radio Vélo avec Paris-Roubaix et l'analyse et bien sûr ce passage à niveau. Non, pas, on va pas analyser comment s'est fermé le passage à niveau, mais on va donner un petit peu notre avis sur la course et sur cette journée d'hier qui était bien différente de celle où on a connu eh bien, ces dernières années. Mais on va commencer sans plus attendre par le foot et vous nous réagissez bien évidemment sur le Facebook, il va y avoir du sport, et le Twitter, @ va y avoir du sport. C'est parti pour le foot. Et oui, le foot avec bien plusieurs sujets à évoquer ensemble aujourd'hui, ben notamment le nouveau titre, premier titre peut-être d'une longue série cette saison pour le PSG qui a remporté la Coupe de la Ligue de main de maître face à Bastia 4-0. On va faire le point Ligue 1 et puis on présentera les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais avant cela, donc cette Coupe de la Ligue dont la finale avait lieu donc ce week-end, mi-avril, bientôt ils la mettront je pense entre Noël et Jour de l'An vu qu'ils savent toujours pas la placer. Mais voilà, le PSG, lui, a réussi quand même ce rendez-vous. Hein. Il hésitait à aligner une équipe de CFA ou pas. Mais voilà, je pense que pour préparer un match de Ligue des Champions très important, un petit match d'entraînement face à Bastia, Ludo, ça fait pas de mal.
Oui, exactement. Et puis, il n'y a pas eu photo. Hein. 4-0. Bon, petite polémique au tout début, là, avec la, avec le pénalty sifflé en faveur du Paris Saint-Germain. Et 4-0, vraiment nickel pour le Paris Saint-Germain. Et puis, oui, c'est le premier titre. Et puis, en Coupe de France, ils vont aussi gagner, puisque la finale est contre Auxerre. Et puis, je les vois aussi vainqueurs de la Ligue 1. Donc, je pense une grande série inédite hein, pour le Paris Saint-Germain. Et puis, inédite carrément pour le football français, puisque jamais personne encore a réussi à faire le triplé dans les trois compétitions nationales.
Ouais, ouais. Et le pire là-dedans, c'est que s'ils font ça en s'arrêtant en quart de finale de la Ligue des Champions, bah, on dira pas que c'est une super saison, quoi.
Oui, parce que le problème,
Le problème, c'est quand on voit contre qui ils jouent en France. Encore, le championnat est quand même assez relevé cette année avec Marseille, Monaco, Lyon qui leur tient vraiment face à eux. Par contre, voilà, sur les coupes, ils vont jouer Auxerre et Bastia en finale. Ça relativise un petit peu leur victoire, même s'ils ont eu un parcours correct avant. Il fallait quand même gagner les matchs. Mais bon, voilà, on peut pas dire que c'est une grande saison quand t'as battu Auxerre et Bastia en finale, même si c'est la régularité qui prime.
Oui, parce que la demi-finale, leur demi-finale en Coupe de France se décante très tard finalement, hein, jusqu'à une dizaine de minutes de la fin, il y a 2-1, c'est pas fait quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage de tomber contre des aussi petites équipes entre guillemets en finale, c'est-à-dire une équipe vraiment de fond de classement de Ligue 1 en Coupe de la Ligue et une équipe carrément de Ligue 2 en Coupe de France. Ça aurait eu plus de gueule avec je sais pas, par exemple la demi-finale. Le PSG Saint-Etienne en finale de la Coupe de France aurait été mieux placé qu'en demi, et en Coupe de la Ligue ça aurait eu plus de gueule pareil face à un Monaco, à Marseille ou quelque chose de ce goût-là quoi.
Plus de gueule et surtout plus de prestige à la gagner finalement.
Plus de prestige, oui, pour la victoire, ouais.
Et peut-être après, pour se lancer pour la Ligue des Champions, c'est quand même pas mal parce que ça fait un match d'entraînement, mais ce sera pas quand même le même rythme, donc au final il faut pas non plus qu'il s'endorme, qu'il reste sur le rythme de cette finale-là. Mais bon, je pense qu'avec la motivation qui fera son effet, ils vont vite se remettre d'albin, à mon avis.
Bon, ça devrait aller du côté du PSG. Oui, Ludo ?
Ouais, faut quand même pas sous-estimer le parcours du Paris Saint-Germain, hein. Je veux pas les défendre. Non,
non, non, mais Ludo, le parcours est joli. On dit que c'est dommage, voilà, que les finales soient contre des petites équipes, quoi.
Ouais, c'est dommage, oui, les finales, oui, c'est pas les grandes affiches qu'on aurait voulu, mais c'est vrai, par exemple, en Coupe de la Ligue, je crois qu'ils passent en quart ou en demi, ils vont se qualifier quand même à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Pareil.
Ils nous sortent des deux coupes, de toute façon.
Ils vont à Lille et ils se qualifient aussi, donc, un beau parcours, ouais, c'est vrai que c'est les affiches des finales qui sont pas trop à la hauteur, mais bon, un beau parcours quand même, mais c'est vrai que c'est dommage, ils vont peut-être faire un triplé et on va se dire qu'au final, comme tu disais, Emeric, ça sera peut-être pas une grande saison pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils vont peut-être pas passer le carte finale de la Ligue des Champions. Ouais. C'est un peu bizarre tout ça.
C'est pour ça qu'ils sont attendus, on va en reparler tout à l'heure. En Ligue 1, eh bien, le PSG n'a pas joué, mais le PSG conserve la tête du championnat, étant donné que son dauphin Bordeaux, lui non plus, n'a pas joué.
Lyon n'a pas joué
vu qu'il devait. C'est bien, vous suivez vachement bien ce soir.
Ah, c'est un lapsus parce que Bordeaux remonte.
Voilà, c'est parce que Bordeaux a battu Marseille et que j'allais parler de Marseille juste après. Mais Lyon, donc dauphin, eh bien, n'a pas joué vu qu'il devait affronter eh bien, Bastia, l'autre finaliste de cette Coupe de la Ligue pour le compte de cette 32e journée. Monaco, lui, est sur le podium à présent après eh bien, sa nouvelle victoire. C'était 3-0 à Caen vendredi, alors que dans le même temps, eh bien, Marseille s'est incliné à Bordeaux. Saint-Etienne est juste devant Bordeaux, classement 5e, et donc Bordeaux 6e. Voilà le top 6.
Et en termes de points, les Marseillais commencent à avoir chaud aux fesses, puisque tu parlais de Saint-Etienne et Bordeaux qui sont respectivement 1 point et 2 points derrière Marseille.
Voilà, il va vraiment falloir bien suivre la fin de ce championnat parce que c'est assez passionnant, notamment eh bien pour le podium et puis même pour Lyon.
Pour les places européennes.
Même pour Lyon, ça peut aller très vite, hein, en cas de contre-performance face à Bastia, mais il y a peu de chances quand même.
Le problème, tu dis que Marseille doit vérifier parce qu'ils ont chaud aux fesses, mais le problème, c'est que Marseille, à mon avis, sur la première partie de saison, visait plutôt la Ligue des Champions quand même, même s'ils ne voulaient pas trop forcément l'avouer. Là, ils se retrouvent à avoir chaud aux fesses pour l'Europa League quand même.
Mais donc, ça se tient, il suffit, pareil, oui. Il suffit de 2-3 victoires dans un sens et défaites en face et pouf, ça revient en course pour le podium. Là, les 4-5 premiers vont se battre pas pour le titre, bien sûr, mais tout ce petit peloton-là peut espérer une grosse qualif européenne, voire la Ligue des Champions.
Marseille-Monaco en dernière journée, hein.
Donc, oui, ça peut valoir son pesant d'or, ce match.
Alors que bon, Lyon a quand même un calendrier très favorable. Bastia, Saint-Etienne, c'est le seul gros match. Reims, Evian et Caen. Je pense que Lyon est quand même...
Surtout qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, au contraire des deux autres qui sont sur le podium.
Normalement, Lyon, hormis le derby où les pronos sont ouverts, ça doit faire que des victoires.
Hein. Oui, tout à fait. Et les pronos sont ouverts, encore que Lyon à domicile. Sur un gros match, je pense que ça peut... Ça fera au moins le nul, et puis s'ils font que des victoires et un nul... Bon.
Saint-Etienne réussit mieux ses derbies à Lyon qu'à Saint-Etienne.
Ouais.
Bon, on va suivre tout ça pour le haut du classement, mais là où il y a le feu, Ludo, c'est aussi dans la course pour la relégation, parce que les fameux 45 points de Giroud, 42, je sais plus, mais il va vraiment les falloir quand même cette année, si c'est 45, parce que, bon, c'est optimiste 45, donc 42, on va dire.
Allez, 42.
Allez, 42, le maintien pour toi, Mika, mais en tout cas, eh bien, il y a une tripotée d'équipes, pour ne pas dire une dizaine, qui ne les ont pas. Donc, c'est vrai qu'avec deux défaites consécutives, ça peut vite descendre. Le TFC est le premier relégable. Il faut dire que pour Metz et Lens qui sont derrière lui, ben, la Metz est dite. Mais Toulouse est revenu à égalité de points avec Reims, avec Lorient, à seulement un point d'Evian, à deux de Bastia, à trois de Caen, à quatre de Guingamp, à cinq de Nantes.
Ouais, tu peux t'arrêter, on va aller sur le podium bientôt.
Qui est vraiment le... Non, mais même Nantes, finalement, ouais. Ils voulaient jouer une qualification quelque part. Mais là, non, ils sont pas loin non plus de cette zone rouge. Ludo, c'est jusqu'où alors qu'il faut avoir peur?
Ah mais moi, je l'ai noté en préparant l'émission, hein. C'est jusqu'à Nantes. Ils sont 11e pourtant, et puis comme tu viens de dire, ils sont qu'à 5 points de la relégation. Alors qu'en début de saison, ils auraient pu regarder vers le haut de classement. Et là, 5 points, et ben jusqu'au 11e, Nantes, tout le monde va avoir chaud. Hein. Après, tu les as tous cités, Guingamp, Caen, Bastia, Evian, Lorient, Toulouse. Peut-être un coup de chapeau à Toulouse pour ce week-end, parce qu'il y a un mois, c'était pas gagné. Hein. On les voyait pratiquement relégués en deuxième division. Et puis là...
Ils sont pas sauvés encore.
Oui, ils sont pas sauvés, mais ils ont une petite dynamique avec eux, contrairement à d'autres clubs comme Lorient, Evian et peut-être Bastia, quoi. Et puis la prochaine journée va être terrible, parce qu'il va y avoir un Lorient-Toulouse, un Guingamp-Evian et un Bastia-Reims.
Ça fait rêver.
On saura encore plus lors de la prochaine journée, mais jusqu'à Nantes, tout le monde peut descendre encore. Hein. À part les deux derniers, bien sûr, Lens, Metz qu'on oublie, mais voilà, il en faut un troisième pour descendre en Ligue 2 et rien n'est fait jusqu'à Nantes 11e.
Les Toulousains, parce qu'on est dans le sud-ouest, vont avoir quand même une fin de championnat assez difficile, hein, parce qu'ils vont aller à Monaco, ils vont recevoir Lille, ça fait deux matchs compliqués, après ils vont jouer contre les adversaires directs, à Lyon, à Lorient, à Guingamp. Il va falloir rassurer, hein. Ça va pas. Le dernier match face à Nice à domicile, ça va être chaud.
Ah oui, j'avais pas vu ce calendrier pour tout. En effet, très 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 dur. Ouais.
On remercie quand même Roland Courbis hein, et Montpellier qui ont accepté de laisser gagner au TFC ce week-end. Je plaisante, mais ça avait pas l'air de déranger tonton Roland. La relégation. Alors, qui est l'équipe qui va descendre avec Lens et Metz, messieurs?
Il faut étudier les calendriers de près. À mon avis, moi je vois bien Reims, moi.
Ouais, Reims, pour toi, les dynamiques sont difficiles.
Toulouse. Reims, franchement, bien, ouais. Franchement, Toulouse, ça sent le pâté.
Moi aussi, je vois Toulouse mal placé. Ouais, quand même.
Tu peux pas dire Sochaux cette année.
Ah hein, non, Sochaux, ils sont. Ils monteront pas, je crois, Sochaux, mais bon, voilà.
Reims, ils prennent le PSG, Lyon, ils vont à Guingamp, ils vont à Evian, ils vont à Bastia.
Ça fait beaucoup de matchs contre des adversaires directs, ça d'ailleurs.
Ouais, ils reçoivent Rennes. Ouais, à mon avis.
Il y en a qui ont de la chance d'avoir quelques points d'avance, c'est Caen, parce que vraiment, je les sens pas trop, moi, en ce moment. Je dirais Caen.
Caen
ouais, qui peut descendre, peut-être. Et pensionnaire du stade d'Ornano. Ludo, c'est qui, tu as dit,
oui.
Toi
non, bah, je vais vous remonter le moral, hein. Toulouse va se maintenir, hein. Soyez pas pessimiste. Comme ça, là-bas, du côté de Toulouse.
Bah non, c'est pas ça.
Je vois Reims ou Evian, là, dans la mauvaise direction, là.
Ben oui, en tout cas, ce sera eh bien une grosse déception pour l'équipe qui descendra, étant donné que toutes pouvaient se sauver à l'heure actuelle.
Quand ils vont à Montpellier, le prochain match, peut-être qu'il y a peut-être moyen de négocier quelque chose.
C'est vrai, il faut tout négocier dans le foot. Allez, on va parler de Ligue des Champions. Mika, il a quelque chose sous le coude, je suis sûr, pour nous lancer ça. Ludo, tu voulais rajouter un truc sur le championnat?
Non, juste peut-être pour en venir, je veux dire, un petit aller Saint-Etienne quand même. On ne sait jamais parce que la dynamique est pour eux. Et puis, je les vois bien finir devant Marseille, allez, disons-le. Marseille, là, depuis la défaite lors du Classico, la 3-2 la semaine dernière, là, ils ont plus la tête au championnat. Là, ils ont pris un coup derrière la tête, justement. Et Saint-Etienne, sur la dynamique, va peut-être terminer quatrième du championnat. Mais attention, faudrait quand même jouer, si Saint-Etienne se qualifie, il faudra quand même jouer sérieusement l'Europa League l'année prochaine et pas faire comme ils nous ont fait cette année, voilà.
Cette année, ça a pratiquement pas pris de but. L'année prochaine, il faudra juste en marquer.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça serait déjà pas mal.
Voilà, suivez l'exemple de Guingamp hein, pour l'Europa League. Allez, parlons un petit peu de foot juste avant la première coupure. 10 petites minutes de Ligue des Champions.
Parce qu'on parlait pas de foot, on parlait pas de championnat de France.
Parlons vraiment de Ligue des Champions. Quelle belle musique pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et oui, quart de finale avec deux équipes françaises. Qui l'eût cru? Surtout eh bien après les derniers tirages qu'il y avait eu pour les huitièmes de finale. Chelsea pour le PSG, Arsenal pour Monaco. Bon, c'est sûr qu'Arsenal se fait pas rêver, mais quand même... Monaco s'était pas gagné d'avance. Et donc, eh bien, demain, Monaco va jouer un quart de finale de Ligue des Champions face à la Juventus. La Juventus qui est contente également de retrouver ce niveau-là, je pense, de la compétition. Juventus qui est favorite de ce match, étant donné que le match allait.
Mais qui jouera ces deux matchs, a priori, sans Paul Pogba.
Voilà.
Qui est quand même, faut le dire, devenu son maître à jouer.
Oui, et puis, c'est vraiment le joueur qui débloque les situations à la Juve quand c'est un peu compliqué vers 60e, 70e, il va marquer un but, il va faire une passe. Donc, à voir.
Donc là, Monaco va commencer à l'extérieur, terminera donc à domicile, si l'on peut dire, quand il s'agit de Monaco. Mais voilà, c'est
surtout face à la Juve, c'est pas loin.
Face à la Juve, c'est pas loin en plus pour eux, donc c'est vrai que niveau déplacement, c'est impeccable. Mais voilà, la Juve est leader de ce championnat, va pouvoir se concentrer sur cette Ligue des Champions. Du côté de Monaco, il n'y a rien à perdre, Philippe.
Il n'y a rien à perdre, effectivement, au niveau de Monaco. Moi, pourquoi pas avoir une bonne surprise de la part de Monaco et dès le match aller. Pourquoi pas?
De toute façon, faut pas qu'ils se stressent, les Monégasques. Hein, se retrouver là où ils sont, c'est déjà inespéré par rapport à l'équipe sur le papier et à la façon dont s'était passé le début de saison. Aller faire un quart de finale, je pense que tu leur disais ça au mois de septembre, ils signaient tous des deux mains et des deux pieds. Donc ouais, faut y aller sans pression. La Juve, comme on disait, il va manquer Pogba, qui est quand même celui qui arrive en principe à leur débloquer les situations un peu bizarres. Voilà, hein, comme dirait un grand philosophe, sur un malentendu, ça peut passer.
Hein. Bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, Ludo, c'est que, eh bien, au match retour face à Arsenal, ils avaient quasiment un match gagné. Monaco, ils ont failli ne pas être qualifiés. Alors que dans le même temps, ben, la Juve a vraiment étrié le Borussia Dortmund avec 5-1 sur l'ensemble des deux matchs.
Alors j'espère qu'il va en mettre le feu, hein, si on puisse dire, et si on puisse s'exprimer ainsi quand il s'agit de mettre le feu au stade Louis II là à Monaco, même s'il sera rempli d'Italiens, mais un match retour à la maison, j'espère qu'il va enflammer tout ça. Et puis Monaco prend toujours pas beaucoup de buts, et puis maintenant ils se mettent à marquer des buts. Par contre la Juve a fait beaucoup tourner, hein, ils ont mis, on va pas dire une équipe bis samedi dernier lors d'un match de Serie A, de leur championnat d'Italie, donc voilà, les joueurs seront frais. Pour la Juve ça va être dur, mais allez, une petite pièce sur Monaco quand même.
Ouais. Une pièce sur Monaco.
Une petite pièce alors, hein, parce que la cote va être assez bonne, donc ça suffira.
Ah ben là, demain, la victoire de la Juve, c'est 1,48 sur PMU. La victoire de Monaco à Turin, si vous voulez, c'est à 9 sur PMU.
Ça. Ouais, non, mais il faut voir sur la confrontation sur les deux matchs, parce que sur un seul match, je pense qu'à la Juve, quand même, Monaco va souffrir. Au mieux, ils vont perdre un but à zéro peut-être. Je ne je vois pas marquer là-bas. La Juve est quand même solide en Serie A. Bon...
Moi, non, je pense que de la Juventus.
Je pense que l'autre match va quand même nous faire plus rêver, hein.
Ouais.
Je pense aussi qualif de la Juve, pas forcément sur des scores fleuves, parce que comme on le disait, Monaco est quand même une équipe solide.
1-0-0-0.
Ça suffit, hein.
La Juve va marquer.
Ce sera un peu mieux que ça, genre 2-0, 2-0, 2-1 ou un truc comme ça, mais
Tevez, il va leur trouver les buts, tu vois.
Mais voilà, la Juve, je pense.
Bon, Philippe.
Moi, je vous dis toujours pareil. Je pense que Monaco va faire un très bon match aller à la Juve. Ils vont gagner. Et après, à Monaco, ils ne prendront pas de but. Donc, ils passeront.
Allez, voilà. C'est plus Monaco des années 60, hein, Philippe.
Non. Mais je me rappelle, effectivement, au début des années 2000, effectivement, on ne pensait pas les trouver à si belle fête. Et puis, ils avaient été en finale. Ils avaient perdu en finale, malheureusement.
Ça, c'était pas la même équipe.
Ça jouait pas pareil.
C'était pas pareil, mais bon, pourquoi pas.
C'est déjà il y a plus de 10 ans. L'autre quart de finale de demain, c'est Atlético Madrid, Real Madrid. Remake de la finale de la dernière Ligue des Champions. Pour demain, alors ça sera là. Match nul pour moi.
Atlético.
Ouais.
Moi, je pense que
ça sera au stade de Vicente Calderón, bien sûr.
Je pense que cette année, le Real va pas se laisser surprendre et je vois gagner les deux matchs.
Ouais, j'encouragerai l'Atlético, moi, en tout cas.
Le Real remonte bien, hein, quand même, avec Cristiano Ronaldo qui remarque un quintuplé, je crois, la semaine dernière. Enfin, je vois bien.
Ouais. Moi, effectivement, je pense que le Real va se qualifier. Pour demain, je vois bien un match nul, mais pas le 0-0. Il y aura des buts. 2-2, quelque chose comme ça.
Ça fait 8 matchs, toutes compétitions confondues, que le Real n'a plus battu l'Atlético à domicile ou à l'extérieur. Autre statistique pour l'Atlético, l'Atlético n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile.
La stat peut tenir et le Real passer malgré tout. 2-2 à l'aller, 1 au retour, et c'est le Real qui passe. Hein.
Bon, en tout cas, moi, ça sera match nul pour demain. Ludo?
Eh ben décidément, je vais encore mettre, on va dire, le petit que je vois vainqueur. Moi, je vois, ben même c'est carrément le calife, je vois l'Atlético Madrid passer. Allez, je suis fou ce soir.
Ouais, ouais.
Monaco tout à l'heure, l'Atlético Madrid passer hein, en championnat il y a un mois, ils leur mettent 4-0. Bon, alors, c'est pas pareil, hein, c'est que le championnat, là, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais l'Atlético a carrément écrasé le Real 4-0. Et un mois avant, c'est qu'en janvier, ils avaient fait 2-2 du côté de Santiago Bernabéu. Donc on verra.
C'était le creux du Real.
Déconne pas, Ludo, tu vas nous faire arriver un Atlético Monaco en finale de Ligue des Champions. Merde, le prestige, il est où après? La plus forte et la plus efficace qu'on ait jamais vue depuis, même depuis le grand Barça d'il y a 5-6 ans, était plus beau à voir, mais était moins fort que ça. Le Barça cette année, pour moi, c'est un Barça qui a achevé sa mue, qui est capable de gagner, même qui domine moins, mais qui est capable de gagner même sans dominer. Attention à ce Barça, je le vois moi gagner cette Ligue des Champions. Donc, enfin pour moi, voilà, c'est Paris ne fera pas illusion un instant face à cette équipe-là.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Emeric. Ouais, Barcelone, on en parle moins cette année. C'est par exemple le Bayern qui est largement favori de la Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être un jeu moins flamboyant, mais très efficace. Ouais. Et puis là, je pense pas que Paris puisse passer ce tour de Champions League. Par contre, une info qui est apparue dans la journée, peut-être que Thiago Motta, alors là, bien sûr, un talk avant le match, mais peut-être que Thiago Motta pourrait finalement tenir sa place du côté du Parc des Princes pour le match qui va arriver là. Et puis du côté de Barcelone, c'est Dani Alves qui est blessé, donc bon, ça change rien pour eux, mais bon, voilà, quelques nouvelles des blessés pour ce match.
Allez, on va donc clôturer ce chapitre foot avec en tout cas des belles attentes. Ludo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant la petite pause?
Oui, je vais rajouter, je vais lui faire un petit coucou, c'est à Frédéric. Alors là, il est dans le train entre Paris et le Puy-en-Velay, là, du côté de la Haute-Loire, en Auvergne. Voilà, pour le féliciter, c'est un supporter de la Saint-Etienne, donc vu qu'on parlait foot, et puis Champions League, les Verts, 1976.
Ouais, quel courage, on peut le féliciter.
Voilà, et puis il a fait le marathon de Paris hier, il a super bien terminé, voilà, je lui fais un petit coucou. Alors il nous écoute peut-être pas tout de suite, il nous écoutera sûrement en podcast, voilà, je voulais le féliciter, et puis féliciter tous les sportifs et participants qui ont terminé ce marathon de Paris, voilà, donc coucou à toi Frédéric. Et puis on parlait foot, et puis du côté de Saint-Etienne samedi, ça sera du rugby, puisqu'à Geoffroy Guichard, ça sera ASM Clermont-Auvergne contre Saracens, là aussi de la Coupe d'Europe de rugby, et là c'est les demi-finales. Voilà, désolé pour les footeux, mais bon, j'espère qu'il y a de bons jardiniers du côté de Geoffroy Guichard, parce qu'il faudra bien réparer la pelouse pour les matchs qui suivent. Et puis bien sûr le derby, c'est dimanche, Lyon Saint-Etienne du côté de Gerland. Voilà pour la page foot.
Merci Ludo, et puis on se retrouve bientôt bien évidemment sur CETA Radio et les réseaux sociaux que tu animes. De main de maître, on revient dans quelques instants avec Nico pour parler tennis et vélo. Salut Ludo. Salut.
Ouais, merci à tous, bonne fin d'émission. Ciao.
Ciao, et à tout de suite sur CETA Radio juste après une petite coupure. Allô. Allô, allô, en direct sur cette radio. Et oui, petit problème technique, mais on y travaille, on y travaille. On s'excuse pour la petite coupure d'il y a quelques secondes également. Et on accueille notre ami Nico. Nico, au bout du fil, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends bien. Salut à tous, messieurs. Bonsoir à
Salut
tous.
Salut Nico.
Salut Nico.
On va parler de tennis, Mika, avec eh bien, bah, Philippe. Un hommage tout d'abord à Patrice Dominguez.
Oui, effectivement, Patrice Dominguez qui nous a quitté hier. C'était un grand joueur de tennis. Il avait joué pendant les années 70. Je crois qu'il avait été 36e joueur. Donc, il avait joué à Roland Garros, un bon joueur. On se souvient de ses duels avec François Geoffrey, par exemple. Moi, je me souviens. Et puis après, surtout, ça avait été un excellent consultant à la radio. Moi, je me souviens avoir écouté ses commentaires sur Roland Garros, par exemple, à l'époque où on écoutait le tennis demi-heure par demi-heure sur Europe numéro 1. Donc, voilà un grand homme du tennis qui nous a quittés. Il avait également dirigé les Français en Coupe Davis, donc voilà, un commentateur télé, donc également un collectionneur d'objets du tennis. Il collectionnait en particulier les raquettes en bois, parce que jusqu'à une époque assez récente, à peu près jusqu'aux années 70, eh ben, les raquettes de tennis étaient en bois et faites avec des boyaux. Voilà.
Un entraîneur aussi, c'est l'ancien entraîneur de Fabrice Santoro notamment.
Tout à fait, tout à fait.
Des TN aussi. Enfin, il a oui. vraiment fait un petit peu tous les postes. Voilà, il était animateur sur radio notamment.
Télé également, il en a fait.
Et puis il était pas si jeune non plus. Hein. Je crois qu'il est né en 1950, donc il avait quand même 65 ans. Mais il était vraiment toujours pertinent dans ses analyses. Voilà, bon, quelqu'un qui avait un gros vécu et qui en plus savait le faire partager, ce qui est pas forcément évident. Voilà, différents postes, il a bien réussi un petit peu partout. Numéro 1 français. Il a fait, je crois qu'il est arrivé en finale deux fois du double mix de Roland Garros. Voilà, donc il faisait un petit peu de tout et ça se passait plutôt bien pour lui.
Ouais, c'est sûr que c'était voilà un nom qui comptait dans le milieu du tennis et ça va, il va manquer un peu quand même.
Patrice Dominguez, mais moi j'aimais beaucoup, on va demander à Nico, parce que en fait c'était quelqu'un de très simple, et je sais pas où je l'ai lu, mais ça résumait vraiment ce que je pense du garçon. Il arrivait à vulgariser son sport, et c'est vrai que quand il en parlait, c'était très simple, alors qu'avec certains qui veulent parler de basket ou rugby de suite, on comprend plus, mais il passait bien, surtout à la radio, Nico, hein.
Oui, ben moi je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. C'était surtout un personnage important du tennis français, hein, celui qui le portait haut en couleur, directeur de tournoi, faut quand même le signaler, que ce soit Monte Carlo, très présent sur Roland Garros, mais surtout un homme important du tennis français, un homme important des médias. Il avait été directeur des médias du côté de la SAC, hein, je sais pas si Philippe tu t'en souviens, mais il a recruté des grands noms, hein, Christian Prudhomme par exemple, enfin, voilà, il a été à la base de tout ça, donc c'était vraiment un homme de médias et un grand personnage du tennis français.
Qui d'ailleurs France Télé qui a annoncé bien que au niveau de ils perdent pas de temps d'ailleurs à France Télé que Mikael Jodra devrait rejoindre l'équipe et puis chez les filles Justine Hénin, mais je crois qu'elle a déjà fait plein de fois elle, mais bon.
Qui commente Justine Hénin sur France Télé?
Ouais, pas pour commenter, il faut un peu consultant là, il vient de temps en temps boire un coup là à la table
avec Tatiana de
Laurent Luyat. D'ailleurs, tiens, je vais vous donner quelque chose d'un peu plus joyeux, un peu plus marrant plutôt, mais énervant quand même. Laurent Luyat qui, comme Thierry Adam, va devoir observer un jour de repos hein, pendant sa quinzaine. Il ne pourra pas animer Roland Garros pendant 7 jours sur 7. Hein,
ça,
voilà.
Alors ça, à l'époque où on vit, c'est quand même incroyable.
Bon, en même temps, s'il y avait des trucs comme Radio France, ça se saurait.
Non, mais c'est incroyable. Enfin, au jour où on peut travailler le dimanche, faire plein de choses et tout, bon, qu'un commentateur sportif puisse pas une fois dans l'année dépasser le train de travail hebdomadaire.
Alors que ça fait des années qu'ils le font en plus.
Ouais, ça fait des années qu'ils le font. Et puis.
C'est pas sur France 2 où ils cumulent beaucoup d'heures en plus. On peut pas dire que Luya et Adam, on les voit beaucoup quand même tout le long de l'année.
Ils bossent deux semaines par an, ils peuvent pas faire trop d'heures
dans ces deux semaines. Faut pas me dire qu'ils sont payés que les jours où on les voit à la télé quand même, ces mecs-là. Hein.
Ouais, c'est des contrats de 10 heures.
Entre France Télé et Radio France, quand même, va falloir voir pour donner un peu de la redevance à cette radio, parce que franchement, vu ce qu'ils font. Bref.
Et puis en plus, en parlant un petit peu sérieusement, ils font pas tant d'heures que ça, même quand ils commentent le tour. Évidemment, il y a tout le travail de préparation avant, mais bon,
faudrait pas être payé pour commenter le tour. Ça doit être du plaisir de commenter le tour, Nico.
Non, mais c'est une utopie. Bon, après, Nico, on va pas rentrer dans les contrats du côté de France Télé et Radio France. c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a, certaines conventions, à mon avis, assez importantes.
Bon. Ouais. Très bien. Nous, on va rester sur nos conventions collectives.
Hein, après sport, un peu. Hein.
Voilà, viser à faire un petit repas de temps en temps. Mais on va parler de tennis avec bien le retour de la terre battue. The return of the battue terre, hein, comme dirait Nelson.
Yes.
Monte Carlo, ben oui, la ATP Master 1000 de terre battue. C'est parti, ça a commencé même. Et puis, c'est le retour sur terre de certains. Nadal, qui bien n'a pas joué depuis quelques temps sur terre battue. Et puis Djokovic qui carrément, Nico, je crois, n'a pas joué depuis Roland-Garros sur terre battue.
Oui, ça, c'est peut-être une saison de terre battue qui va être intéressante. Alors celle en dur qui vient de se terminer a vu Djokovic écraser toute concurrence, mis à part à Dubaï contre Federer, c'est son seul match perdu de ce début de saison. Mais Djokovic arrive dans une forme exceptionnelle, donc ce qui nous donne un scénario assez palpitant, parce qu'on se dit que Nadal part de très très loin et Djokovic pourrait en très très grande forme. Donc c'est avec impatience qu'on va voir si Djokovic peut cumuler peut enfin gagner un titre à Roland Garros. C'est toute la grande question de cette saison de terre battue.
Ouais, Djokovic qui va vouloir remporter Roland Garros. Djokovic qui a déjà répondu présent au début de l'année, à la fin du mois de janvier, en s'imposant face à Andy Murray en finale de l'Open d'Australie, bien sûr sur une autre surface. Mais voilà, ce rendez-vous, c'est Monte Carlo, c'est le tournoi que Nadal a gagné tous les ans pendant environ 125 ans, hein, c'est-à-dire entre 2005 et 2012. Djokovic l'a remporté une fois, c'était il y a deux ans, et l'an passé, souvenez-vous, c'était Wawrinka qui avait battu son compatriote Federer dans la lancée de l'Open d'Australie qu'il avait justement remporté. Federer qui, lui, n'a jamais remporté Monte Carlo, Emmerich.
Non, effectivement, puisque dans les années où il le disputait, c'était Nadal qui le gagnait. Donc,
Et quand même, quatre finales. C'est vrai que c'est toujours difficile, Nico, de donner un favori clair, hein, pour cette première compétition sur terre battue, du moins dans l'Hexagone.
Oui, parce que tu as du mal à avoir les forces en présence. Alors moi, je place Djokovic bien au-dessus de tout le monde, mais on se dit que Federer joue beaucoup moins de matchs depuis par rapport à l'année précédente. Il joue beaucoup moins de matchs. Il arrive apparemment plutôt en bonne forme, plutôt véloce, qu'on peut lire ça dans la presse. Donc ça va être intéressant à voir. Donc Murray et Ferrer se cachent dans le bois pour l'instant. Wawrinka paraît un cran en dessous. Mais vraiment, le gros favori, là, si on doit en donner un, c'est Djokovic, qui écrase tout pour l'instant. Moi, je vois, la grande question, c'est l'état de forme de Nadal, mais il vient de donner quelques indications comme quoi il avait très très peur pour sa santé et pour son état physique dans ce début de saison de terre battue. Donc on a du mal à le voir comme un grand favori dans cette saison. Mais tu as placé Monte Carlo comme la grosse compétition. Il y a ensuite Madrid, qui est quand même un sacré tournoi. Il y a Rome dans la foulée. Barcelone à cran en dessous, il y a quand même de bons bons tournois avant Roland Garros.
Et ça arrive vite après.
Ça arrive très très vite, ça arrive dans la foulée. Et Roland Garros n'est que, si je dis pas de bêtises, que fin mai, hein, donc ça va aller très très vite.
Nadal, à mon avis, sans Monte Carlo, va engendrer la suite de sa saison. C'est-à-dire qu'il y a une grosse perte de confiance. Physiquement, c'est pas terrible. Je pense que s'il fait un mauvais Monte Carlo, il va avoir beaucoup de mal à se relever derrière. Monte Carlo, c'est là où on l'attend finalement le plus, parce qu'il les a tous gagnés, mais le moins en termes médiatiques, puisque Roland Garros et Madrid, pour lui, ça va être quand même beaucoup plus ça va faire beaucoup plus de pression au niveau mental, sachant qu'il arrive difficile.
Ça reste Nadal après, hein, Mika, hein. Ça reste du Nadal, c'est-à-dire qu'un mois et demi avant, Roland Garros, il peut encore être à la rue et puis en un mois nous faire une remontée exceptionnelle, hein.
Mais je pense
ce sera pas la première surprise, hein.
Ouais, mais je pense que s'il commence mal Monte Carlo et sa saison, je pense qu'il va pas arriver forcément à s'en remettre, alors que s'il fait une grosse perte sur Monte Carlo, c'est le renouveau, c'est le départ de Nadal dans cette saison, et derrière ça peut faire mal si ses genoux tiennent.
Alors, sur qui vous pariez pour Monte Carlo, pour Roland Garros, qui est votre homme là à suivre sur la terre battue cette année? Est-ce que c'est peut-être un outsider? Est-ce que c'est peut-être Ferrer? Est-ce que c'est peut-être je sais pas, Dimitrov qui avait carburé, il me semble, l'an dernier, mais qui a loupé là son début de saison? Vous regardez,
personne ne veut se lancer, c'est trop compliqué.
Franchement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, normalement c'est pour Djoko, aussi bien Monte Carlo que Roland Garros. Mais on est qu'au début de la saison sur terre battue, à chaque fois qu'il y a le changement de surface, on rebat les cartes. Hein.
Ouais, Djoko, moi aussi.
Bon, vous êtes pas trop mouillé, Philippe. Est-ce que tu joues sur le compte, toi?
Ça c'est vieux, effectivement. C'était, il avait joué une finale à Roland Garros, le compte. Non, je pense qu'à Monte Carlo, c'est Djoko qui va gagner. Par contre, Nadal va bien se lancer et on ne sait pas pour Roland Garros parce que c'est quand même ce qu'il vise. Hein. Ouais. Et il sera très dangereux à Roland Garros, je pense.
Allez, pour moi, c'est l'année où Nadal ne gagnera pas Roland Garros. Djokovic gagnera Roland Garros, mais je vais jouer David Ferrer pour ce Master 1000 parce que quand même, il faut un peu se mouiller. Nico, alors.
Allez, je dis une pièce sur Roger Federer parce qu'il n'a jamais gagné et qu'on va dire qu'il part de très loin, mais bon, il arrive plutôt en bonne forme. Allez, je tente un coup sur Federer, même si la logique voudrait Djokovic.
Si Nadal se blesse et que Djoko n'a pas envie, allez.
On va suivre ça en tout cas. Pour ce qui est du tennis, quand même un mot sur la Fed Cup parce que je sais que personne n'en parle, qu'il faut se battre pour avoir les infos. Mais bordel, les filles sont en demi-finale et alors que ces dernières années on parlait surtout de relégation, hein, du moment où elles seront plus dans le super groupe et tout. Bon, total, là cette année on a mis une équipe de filles que bon, tu les croises dans la rue, mis à part si elles sont mignonnes, tu les reconnais pas en tout cas par rapport à leur performance tennis, c'est-à-dire c'est la team avec les Garcia, les Cornet, les Mladenovic. Eh bien, elles ont sorti l'Italie en terre italienne, hein, souvenez-vous, c'était au mois de février, 3-2, c'est un exploit et elles seront opposées, parce que pour moi l'équipe d'Italie avait vraiment ses chances, hein, avec des filles comme Errani qui sont pas mal encore cette saison, mais là elles seront opposées eh bien à la République tchèque qui n'est pas non plus la grande favorite de cette Fed Cup, la favorite je dirais plutôt qu'elle est dans l'autre demi-finale entre la Russie et l'Allemagne. Il y a la Russie où il y a les Kuznetsova et Ocharapova, et puis l'Allemagne qui a sorti l'Australie, l'Allemagne avec les Kerber, les Gorges, les Petkovic. Ça vous... Non, Mika, ça je te le vends, mais ça marche pas.
La Russie encore.
Aide-moi, Nico.
Non, que dire, que c'est quand même Amélie Mauresmo qui porte cette équipe en voilà. Capitaine.
Et d'ailleurs, on a appris cette semaine qu'elle faisait pas que porter l'équipe.
Attends, j'allais t'en parler, c'est le gros problème.
Non, mais elle est très musclée, elle peut porter tout le monde.
Hein. Amélie Mauresmo, elle veut parler, à mon avis, de tennis, elle veut faire beaucoup de choses, elle veut faire le buzz autour de son équipe, et elle nous publie sur Twitter une photo de son enfant qui devrait arriver très prochainement. Donc c'est, voilà, tout est possible. Bon. Pour la communication de la Fed Cup.
Au top la communication en France. Quand je vois que les rugbyman ils prennent des psychologues et nous on fait comme ça au tennis. Bref. Non, je pense que la France peut aller en finale. La finale de la Fed Cup, ça sera 14-15 novembre. Par contre, ça sera dur de battre la Russie et l'Allemagne. Mais c'est faisable de battre la République tchèque quand on a été battre l'Italie chez elle, Aymeric. Ouais.
Oui, non, je pense que c'est jouable. Après, c'est typiquement le genre d'exploit qu'ont fait les Françaises en battant les Italiennes. Est-ce que c'est pas juste l'exploit typique des Français, tout le monde dit elles vont perdre et paf, ça gagne alors personne s'y attend. Et au match d'après, ça retombe comme un soufflé. Est-ce que ça va pas être ça non plus, quoi?
Peut-être.
Ouais. Enfin, moi à mon avis je comprends pas comment on peut arriver à un demi-finale ou un final de Fed Cup en ayant des joueuses comme ça qui gagnent rien en individuel, quoi. Enfin, moi, c'est l'esprit d'équipe.
Mais c'est la beauté, mais regarde, comment ça s'appelle, là, la compétition des garçons, la Coupe Davis. Eh bien, voilà, non, j'aurais préféré tout ça avec Johnny Hallyday, là, tu vois. Mais,
On est presque champion.
Presque champion, en tout cas, voilà. Mais il y a des garçons, ils sont faits pour les compétitions de double aussi. Bon, mais moi, ça me choque pas. Et je préfère des mecs qui gagneraient en SEM, mais qui gagnent en équipe, que d'avoir Gasquet, les Monfils, les Tsonga, les Simon, là, qui veulent même pas prendre leurs responsabilités. Bref, on referme la page tennis. Nico, t'es prêt pour passer le passage à niveau?
Je suis chaud bouillant.
Bon, allez, on va passer à franchir le passage au niveau. C'est parti.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions.
Et oui, formidable course avec la victoire de John Degenkolb, le coureur allemand, 26 ans, qui succède Philippe au seul Allemand qui avait remporté Paris-Roubaix. C'était avant 1900.
Et c'était, je crois, le premier Paris-Roubaix, un des premiers Paris-Roubaix qu'il avait gagné, effectivement, cet Allemand. C'était au siècle dernier, donc voilà, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un Allemand gagner Paris-Roubaix. Il y avait des Allemands qui avaient participé à Paris-Roubaix, Rudi Altig, Dietrich Thurau, des bons coureurs, mais jamais ils avaient gagné. Donc voilà, un Allemand qui gagne Paris-Roubaix, et de quelle manière? Parce voilà, qu'il a gagné avec vraiment avec la manière. Hein.
C'était un sprinter.
Il est parti en costaud quand même. Hein.
C'était un sprinter, mais à la manière de Christophe, un autre sprinter sur le Tour des Flandres la semaine d'avant, eh bien,
il a pas attendu la ligne droite.
Hein. Il a pas attendu la ligne droite, et valait mieux pas, parce que d'autres avaient pris la poudre des scambettes. Il a été les chercher avec l'aide de ses coéquipiers, et nous avons eu le droit à un regroupement avant le Vélodrome. Et là, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Un gros groupe a dû se jouer de quasiment une dizaine de coureurs, je crois, se jouer là.
C'était 7 à entrer sur le groupe.
La victoire avec Degenkolb qui a manœuvré tout ce petit monde. Très très belle victoire, très très belle course qui était difficile à cerner jusqu'à la fin, hein, parce que bien malin celui qui allait annoncer la victoire. C'était, il n'y avait pas de Bounen, hein, pas de Cancellara, il n'y a plus Mousseau, il n'y a plus Bartoli. Bref, il n'y avait plus les grands noms du cyclisme forcément. Ouais, c'était quand même avec des grands noms que se sont imposés.
Oui, oui, parce qu'il y avait quand même, attends, devant, c'est des Van Avermaet,
des mecs qui font toujours des places, mais qui c'est pas des leaders bien charismatiques quand même. C'est des gars qui sont des seconds couteaux pour les grosses classiques quand même. Hein.
Bah, c'est les mecs qui sont en train de devenir les leaders des grosses classiques finalement, tout ça, puisque Bounen, c'est quand même ça sent quand même vraiment la fin ce coup-ci. Cancellara, il va plus en gagner 50 non plus. S'il en gagne un, c'est déjà pas mal. Donc ouais, c'est ces gars-là, les Degenkolb, les Christophe, les Van Avermaet, les Van Mark, c'est ces gars-là maintenant qui sont en train de prendre la relève et qui seront les cadors à aller battre d'ici quelques années, parce qu'ils vont les enfiler maintenant, ils vont
De toute manière, il va bien y avoir un moment où il va falloir que ça tourne, parce que Cancellara, Bounen, bah moi j'ai l'impression que j'avais 10 ans, c'était déjà eux qui gagnaient Paris-Roubaix. Non, je suis d'accord, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de gros leader derrière, parce que ça se vaut peut-être, mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement le je veux dire, la capacité physique des Bounen et des Cancellara?
Si, en fait,
ça se nivelle par le haut, non?
Les classiques ont ceci de particulier que le facteur expérience est très important. Donc en principe, quand un coureur commence à très bien marcher sur ce type de terrain, s'il n'a pas de gros pépins physiques, de grosses blessures, eh bien, au fur et à mesure même que ses capacités physiques vont peut-être un peu diminuer en arrivant vers la trentaine, il va compenser ça à l'expérience, et c'est un terrain sur lequel vraiment, si on se blesse pas, on peut durer des années et des années.
Bon, Nico, qu'est-ce que ça va passer de la course en elle-même, ou on attaque l'histoire du train, parce que finalement ça a changé la donne un petit peu, ça, hein.
Que dire, que Degenkolb a fait une course de très très solide, quoi. Il est revenu tout seul sur les deux têtes à 5-6 km de la fin. Enfin, il se l'est gagné tout seul. Puis arrivé le groupe de 10, qu'il soit 5 ou 10, il était favori pour la gagne. Donc c'est plus qu'un sprinter, c'est vraiment un type à la Bounen. C'est un gros rouleur spécialiste de classique qui en plus peut sprinter sur pas mal de terrain, si j'ai bien compris. Ça,
c'est vrai que c'est assez proche de ce qu'a fait Bounen au début de sa carrière, parce que finalement, il sprintait beaucoup, Bounen, au début de sa carrière.
Ouais, c'est ça, c'est un profil de Bounen au début de carrière, capable de gagner un emballage massif, même s'il n'est pas le plus fort dans ce domaine.
Un tout petit peu moins rapide que Kittel, mais Kittel, il est dans son équipe, donc ça s'entend très bien. Voilà. C'est son pote en plus.
Tout à fait. Et avant de passer à l'histoire du passage à niveau, moi je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Alexis Goujard. Qui sort quand même une super course, qui a peur de rien, c'est le dernier de l'échapper en remettre une quand ils se font reprendre. Moi je trouve que voilà, c'est sa deuxième saison pro, c'est ça, si je dis pas de bêtises, à Goujard, c'est
deux ou trois
c'est ouais, je trouve qu'il progresse de manière régulière, qu'on le voit de plus en plus. Et que c'est du tout bon, ce petit Alexis.
Bah ouais, il y a des espoirs. Bon, le premier Français n'est que 17ème, hein, Florent Sénéchal. C'est quand même un peu décevant, les Français.
Démarre, c'est viandé, mais sur toute sa campagne de classique, il est complètement passé au travers.
Si, avec la campagne des classiques.
Finalement, des deux, bah, celui qui remet proprement en route sur le duel Démarre Bouani, puisqu'il fait finalement un Milan-San Remo très honorable. Voilà, les Flandriennes, il y vient pas, c'est pas son truc. Il en a profité pour aller en Coupe de France aligner ses premiers bouquets.
Bon, voilà, hein. On débriefera tout ça d'un Radio Hello à partir de 20h avec quelques spécialistes. Mais Nico, alors cette histoire de train, le TGV qui est passé à l'heure, je sais pas s'il avait de l'avance ou si les coureurs en avaient, mais en tout cas ça devient une habitude. Alors je sais pas s'il y a plus de liaisons TGV dans le nord, parce que du côté Toulouse on attend toujours le TGV, hein, je tiens à le préciser, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passages à niveau. Il y a des secteurs pavés, il y a des secteurs avec des rails aussi là-bas, beaucoup, mais voilà, la barrière a voulu se baisser au moment où le peloton arrivait. Le peloton était à vive allure. Les commissaires de course ont vu donc les coureurs traverser les barrières alors qu'elles se fermaient, ont vu certaines traverser les barrières alors qu'elles étaient fermées, les autres se sont arrêtées. Mais il n'y a pas eu de sanction, soi-disant parce que les coureurs n'avaient pas le temps de s'arrêter.
Alors, ceux qui sont passés alors que c'était en train de se fermer, effectivement, ça arrivait vite. Je veux bien croire qu'il n'y avait pas trop la place de piler comme, enfin, à moins de générer une grosse chute, évidemment, ce qui n'aurait pas été mieux.
Et ça les arrangeait bien.
À la limite, ceux-là, on veut bien leur laisser le bénéfice du doute. Ceux qui sont passés après, je veux dire, il y en a, on les voit bien s'arrêter devant la barrière, faire le tour, redémarrer et passer. Pour moi, c'est hors course. Terminé.
Cela, faut les sanctionner. En plus, Thierry Adam a passé les images en boucle, donc il a fait de la délation pendant une heure, hein, Nico?
C'est pas lui qui passe les images.
Oui, ça va, ils vont bien profiter, ça fait un bon petit buzz, hein. Ça,
voilà,
c'est plutôt sympa.
Surtout qu'en plus c'est complètement con de faire ça, puisque le règlement il est clair là-dessus. Quand un passage à niveau coupe un groupe en deux, la première partie qui est passée avant que le passage à niveau se ferme est ralentie par les commissaires de course le temps que le reste revienne.
Ouais, pour l'instant ils se reposent.
Donc voilà, ça sert à rien, ils y ont rien gagné, et selon moi ils auraient dû y perdre.
Julien qui nous dit que c'est le train qui était en retard sûrement, c'est toujours la faute de la SNCF.
C'était plus précisément, pour le coup il y avait vent dans le dos, c'était la course qui était en avance.
Ouais, donc comme quoi, mais en tout cas voilà, il fallait s'arrêter, et puis surtout tout le monde qui a vu ces images, c'est un petit peu embêtant, d'autant qu'il y a quand même, je lisais le communiqué de la SNCF, des morts tous les ans sur les passages à niveau. Il faut une grosse campagne, Philippe, pour que les gens s'arrêtent aux barrières, bordel.
Effectivement, il faut que les coureurs, effectivement, quand s'il arrive quelque chose comme ça, ils s'arrêtent absolument. Mais les coureurs, ceux qui font des courses, c'est ceux qui se roulent tous les jours ou marchent à pied, effectivement, un passage à niveau. Parce que sinon, il y a des drames, effectivement, et des morts. Et moi, je me souviens dans un autre sport, puisque je parle de Jean Rondeau qui avait gagné les 24 heures du Mans en 1980 et qui s'est tué comme ça dans sa voiture parce qu'il est passé sous une barrière, il pensait passer, et puis le train est passé, et malheureusement, il s'est tué. Donc, non, il faut absolument que les coureurs, et bien, effectivement, ceux qui sont passés soient sanctionnés, parce que c'est une fausse.
Faut les sanctionner. Nico, là, maintenant?
Non, mais excusez-moi, rappelez-moi un truc. Ceux qui sont passés sous les barrières, ils ont dû attendre ensuite? Ils ont dû attendre?
Oui.
Donc, quel intérêt? Donc, en fait, c'est juste un fait classique, un fait de course, mais qui n'a pas d'incidence sur la course derrière.
Mais qui aurait pu être dangereux.
Non, c'est pour l'exemple, monsieur.
Mais c'est hallucinant. Mais même le premier qui passe, c'est regarder la vidéo, le premier qui passe, avant que les barrières tombent, il y a quand même une lumière rouge.
Ça sonne. Souvenez-vous, à l'époque, on avait des trains dans le sud, là.
C'est une bêtise humaine incroyable, et ce serait sanction pour tous ceux qui sont passés avant, même que ce soit le premier qui passe.
Non, mais ils vont être sanctionnés. Ils vont être certainement sanctionnés par la justice française.
Non, ils seront peut-être pas sanctionnés.
Oh, après, il y a eu dépôt de plainte de la SNCF. Hein.
Oui.
Bon, en tout cas, celui qui a pas été futé, c'est le seul qui avait un maillot bleu, blanc, rouge. On pouvait pas louper, ça a alpagué la barrière. Ça, c'est pas de bol, quand même. Toujours dans les bons plans, c'est français.
Je croyais que c'était la ligne d'arrivée.
que dire de plus, alors, concernant cette affaire du TGV?
C'est une non-affaire qui est montée en épingle.
C'est un petit fait, Nico. C'est un petit fait qui était plutôt sympa à regarder, en plus.
Moins impressionnant que l'image qu'on a relayée sur le Facebook de Radio Vélo du train de Paris-Nice 36, là, hein.
Ouais, là c'est
plus chaud.
Ouais,
et puis c'est pas nouveau, on a vu on me rappelle les vieilles photos, effectivement, sur le Tour de France dans les années 30 où les coureurs, et bien, ils s'arrêtaient au passage, c'est tout. Et puis après, dès que le chouchou à vapeur était passé, et bien, ouais, ils passaient, tout simplement. C'était ça, respecte le cadre de la route dans les années 30, comme ça l'est maintenant quand c'est le TGV. Voilà.
Bon, et bien voilà, on continuera à en parler tout à l'heure dans Radio Vélo. Soyez avec nous, on appellera un petit peu tout le monde là, Guillaume qui était dans la voiture Europcar, et bien sûr sur Paris-Roubaix on appellera un commissaire également, on appellera
C'est plus pris, non, le patron de la SNCF, non?
Ouais, si on doit l'appeler à une horaire fixe, ça va être compliqué.
Non, il est en train de mesurer la largeur des quais, lui.
Ouais. Non, allez, arrêtez, c'est trop facile. C'est des profs faciles.
On va passer aux extra time.
C'est comme les fonctionnaires. On passe aux extra time. All right. extra time, alors, Philippe, est-ce que tu en as un sous le coude?
Ah oui, j'en ai un sous le coude, effectivement. Je vous parlais tout à l'heure de Jean Rondeau, vainqueur des 24 heures du Mans, qui s'était tué sur un passage à niveau. Mais c'est là, cette année, ça s'annonce des 24 heures du Mans vraiment passionnantes, parce que la première course, c'était les 6 heures de Silverstone. Et bien, il y a 4 secondes seulement entre la Audi qui a gagné avec Trelluyer, Fazer et Lotterer. Donc Audi gagne, mais avec un baston terrible, ils se sont passés pratiquement à chaque tour, 4 secondes devant la Porsche de Dumas, et troisième la Toyota qui est pas loin du tout. Donc si ça tient pas 6 heures, mais si ça tient 24 heures au Mans, et ben là on va avoir de belles 24 heures. Voilà, ça s'annonce bien pour les 24 heures du Mans.
Ça promet beaucoup, alors que certains passent déjà aux 24 heures vélo. J'ai un petit clin d'œil à Max avec qui on en parlait encore jeudi dernier. Nico, est-ce que tu as un extra time?
Un extra time pour presque l'officialisation de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2014. C'est d'actualité, ça a été voté aujourd'hui par la ville de Paris. Alors c'est pas encore officiel parce qu'il y a encore plusieurs procédures, mais ça devrait l'être en juin 2015, décision officielle de Paris. Donc candidat pour les Jeux Olympiques, intéressant, hein, puisqu'il y a Rome en face, Boston si je dis pas de bêtises, et Berlin normalement. Paris a toutes ses chances.
Il y a eu une belle avancée là dernièrement, hein, aujourd'hui je crois, avec tous les sportifs et les politiques qui font vraiment groupe et qui ont vraiment envie d'avancer ensemble. Je pense qu'on peut avoir un beau projet qui risque d'aboutir cette fois.
Ça va être intéressant parce qu'avec en plus le Grand Paris d'ici 2030, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire en même temps. Donc en termes de projet national entre guillemets, mais même pour l'agglomération parisienne, c'est assez exceptionnel. Hein.
Ouais. Alors, en plus au niveau équipement sportif, on a quand même de quoi faire. Si tout le monde pousse dans le même sens, je pense que ça va être sympa. Après, il faudra voir financièrement si tout le monde s'en sort, si finalement on va pas perdre beaucoup d'argent comme c'est arrivé. Il faudra faire des croix sur certaines choses aussi. Donc après d'ici 2024, on a aussi de quoi voir venir. Et puis la France ira peut-être mieux.
La désignation, c'est en l'été 2017, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même 2 années de candidature hein, d'ici là. Mais après, ça va être important de regarder les autres candidatures. Donc Rome est en Europe, Berlin également. Donc il y a la candidature européenne entre guillemets, mais il y a surtout Boston de l'autre côté. Mmh. Et l'alternance des candidatures au fil des années peut être importante, que les Américains attendent ça depuis un bon moment, je crois depuis 96.
Oui.
Donc c'est quand même voilà, eux vont faire le forcing pour l'avoir assez urgentement. Donc ça peut être très très intéressant. Bon. Sachant qu'en 2000, voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs importants. En 2016, les États-Unis auront une nouvelle présidente ou un nouveau président. Donc
nous aussi, Nico, en 2017, ça aura changé.
Oh. Oui, mais on sera trop juste, Nico.
Ça aura rechangé après, avant 2024.
Bien que si on a une présidente, elle va annuler les Jeux, ça se trouve.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les JO, voilà, c'est politique, c'est plus que du sport. Quoi. On parle d'un fait de société, politique avant tout.
Voilà, et puis vu la bonne qualité de l'air hier pour le marathon de Paris, ça promet en tout cas.
Hein. C'est une belle image.
Oh, on les a bien fait en Chine.
Ouais. Non, mais ça, oui, mais moi, j'irai pas là-bas. Tiens, mon extra. Tu l'as fait dans l'extra time, Nico ?
Non, mais bon, si tu me.
Allez, rapide.
Rapide parce que.
On a encore Emmerich et moi. Hein.
C'est des quarts de volée, des quarts de finale de volée, j'ai voulu faire trop rapide. De Liga, je voulais en parler rapidement parce que ça fait longtemps qu'on parle pas de volée. Et Lyon, Tours, Paris et Cannes ont bien commencé leur quart de finale. C'est aller-retour. Les Spacers de Toulouse qui étaient qualifiés en quart sont allés perdre 3-0 à Paris, mais sur un match accroché. Le retour va être plus que serré, je pense. Les trois habituels aux avant-postes, Tours qui a mal démarré mais qui s'est bien relancé, et Lyon, la surprise du championnat pour le moment, à suivre la semaine prochaine.
À suivre pour les matchs retour, Mika. Moi, juste un clin d'œil en moto, il y avait le Grand Prix des Amériques, et bien un clin d'œil extra time avec les deux places des prodiges français, Fabio Quartararo, même pas 16 ans, en moto 3, et puis l'expérimenté Johan Zarco en moto 2 qui fait également second. Voilà, les pilotes français ont brillé ce week-end sur la piste texane d'Austin au pays de l'Armstrong.
Ouais, pour je l'avais vu ce truc là aussi, pour info, Quartararo, donc c'est il a 15 ans encore, enfin il a pas 16 ans. Il fait deuxième sur son deuxième Grand Prix. Pour information, au niveau des records de précocité, Valentino Rossi, c'est son premier podium, c'était à 17 ans et c'était son 10e Grand Prix déjà, et Marquez, c'était également à 15 ans et quelques, mais c'était déjà son 6e Grand Prix. Donc on gagne record de précocité, c'est pas mal.
Ton extra time, il te reste une minute.
Eh bien, mon extra time, on parlait des justement des futurs ogres des classiques en vélo. Alors pour ceux qui veulent se la péter et annoncer à leurs petits camarades qui va enfiler les classiques comme des perles dans les années qui viennent, retenez bien le nom de Tish Benoot. C'est un jeune Belge qui a été un peu plus discret sur Paris-Roubaix, mais qui est venu faire 5e à 20 ans à peine et pour sa première saison pro sur le Tour des Flandres il y a une semaine. Et pour ceux qui voudraient se faire une idée et le voir en action, il sera également normalement sur les Ardennaises où il ne devrait pas être mauvais du tout.
Exactement, Tish Benoot, à suivre.
Sacré
de,
moteur, hein.
De très près. Nico, tu voulais rajouter quelque chose avant de nous quitter?
Ah non, je vois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'extra time, on en a oublié quelques-uns, la Formule 1, on peut parler également du handball, il y avait énormément de choses ce week-end.
Et le seul mot qu'on n'a pas prononcé, c'est rugby.
En Formule 1, oui, c'est oui. Juste quand même, j'ai beaucoup aimé en Formule 1, Rosberg qui demande à son équipe si Hamilton pourrait pas rouler un peu plus vite.
D'accord. Ouais, c'est toujours sympa entre les deux pilotes, mais il y a un bon duel à venir et les Ferrari sont pas loin.
Voilà, Vettel qui est pas loin, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On va se retrouver bien avec l'équipe de Radio Vélo dans quelques minutes pour justement refaire Paris-Roubaix et puis avec plusieurs invités. Et puis voilà, ça se prépare. Le podcast, vous le retrouvez dès la fin de soirée et puis l'actualité continue sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter. Merci Nico, à très bientôt.
Salut Nico.
Salut.
Salut à tous.
Et à bientôt à 20h dans Radio Vélo dans 3 petites minutes.